Merci de nous rejoindre sur Radio Orient. Il est 13h, le journal Nadia Bencher. À la une de cette édition, en France, pas de répit pour les incendies. En Gironde, le feu a ravagé plus de 10 000 hectares. On compte aussi 53 maisons détruites par le feu. 35 000 personnes ont été évacuées de la presqu'île de Cap-Ferret. À Biscarrosse, le feu a touché 105 habitations et bâtiments. La guerre au Moyen-Orient, 13e nuit de frappe américaine en Iran. L'armée iranienne jure qu'elle poursuivra ses représailles. Téhéran déclare que tout pays participant, coopérant ou aidant les États-Unis serait tenu pour responsable. Les tensions s'accentuent en Cisjordanie occupée où 7 Palestiniens et un Israélien ont été tués ces dernières 24 heures. Dans ce contexte, le ministre israélien d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a de nouveau prié sur l'esplanade des mosquées en violation du statu quo. Bonjour, je vous le disais en titre, en Gironde, les incendies continuent de mobiliser d'importants moyens. Le feu reste très actif et les autorités craignent une aggravation de la situation avec le renforcement du vent attendu cet après-midi. On fait le point avec vous, Salma Darlaoui.
Oui Nadia, le principal incendie parti mercredi à Somos a déjà parcouru plus de 10 000 hectares. Il n'est toujours pas fixé. Depuis deux jours, 35 000 personnes ont été évacuées, notamment à Lège-Cap-Ferret, au Porge, au Temple, à Somos, ainsi qu'à Arès et Andernos-les-Bains. Une évacuation de grande ampleur réalisée par la route mais aussi par la voie maritime pour une partie des habitants et des vacanciers. Le bilan matériel s'alourdit, une cinquantaine de maisons a été détruite, plusieurs dizaines d'autres endommagés, ainsi qu'un camping. Aucun décès n'est recensé à ce stade. Sur le terrain, 1000 sapeurs-pompiers sont engagés, appuyés par d'importants moyens aériens. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, annonce le renforcement du dispositif avec 4 Canadairs, 2 avions Dash, 8 avions Air Tractor et 3 hélicoptères bombardiers d'eau, redéployés en partie depuis le sud-est. Le président de la République, lui aussi, monte au créneau. Emmanuel Macron a demandé l'activation du mécanisme européen de protection civile. Objectif, obtenir davantage de renforts.
Merci Salma pour ce point situation dans les Landes. Cette fois, l'incendie qui menace Biscarrosse a déjà parcouru près de 2600 hectares. Selon le préfet, 105 habitations et bâtiments ont été touchés par les flammes, dont certains détruits et près de 23 000 personnes ont été évacuées. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est revenu ce matin sur l'ampleur du sinistre et les moyens mobilisés pour tenter de le contenir. On l'écoute.
Hier à Biscarrosse, un feu a démarré en milieu d'après-midi, un feu important également a démarré, qui a eu une progression qui est un peu identique à celui de la Gironde. C'est un feu qui progresse très rapidement, qui est difficilement contrôlable et qui, à date, donc, a parcouru une distance qui est extrêmement, un certain nombre d'hectares qui est extrêmement important. On a sur ce feu de Biscarrosse, on a donc c'est 2500 hectares hein, pour être précis. Et on a procédé à des évacuations également. Le préfet des Landes a procédé à des évacuations pour donc protéger évidemment les habitants. Donc 23 000 évacuations qui se répartissent entre 5 000 sur Parentis-en-Born. Ce sont essentiellement des campings qui ont dû être évacués et 18 000 sur Biscarrosse-Bourg. Hein, non pas Biscarrosse-Plage, mais Biscarrosse-Bourg. Sur ce feu, on a 700 sapeurs-pompiers qui sont engagés, des effectifs landais évidemment, hein, et puis aussi, là encore, des renforts et des colonnes extra-zonales. Les conditions météo sont très défavorables et donc le feu continue de progresser. Et donc il y a encore là encore, on a une détermination forte des pompiers pour lutter contre ce feu.
Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, lors d'un point de presse tenu en matinée. Et les incendies n'épargnent pas les voisins européens. L'Espagne a décrété l'état d'urgence nationale dans la région de Madrid et la province d'Avila. Face à la progression des incendies, plus de 10 000 personnes ont été évacuées, tandis que près de 125 000 hectares sont déjà partis en fumée depuis le début de l'année. Le Premier ministre Pedro Sanchez évoque une situation dramatique qui touche aussi plus plusieurs pays voisins et appelle la population à suivre les consignes des autorités. Le Maghreb n'échappe pas non plus au feu. En Algérie, plus de 1550 incendies ont été recensés depuis le 8 juillet, faisant 6 morts et provoquant de nombreuses évacuations dans le nord du pays. Plus de 19 000 agents et d'importants moyens aériens sont mobilisés, tandis que les autorités préparent l'indemnisation des sinistrés. La Tunisie a, elle, perdu environ 4 400 hectares de forêt entre le 1er mai et le 23 juillet, soit une hausse de 63% par rapport à la même période de 2025. Les régions de Zaouane, Bizerte, Béja, Jendouba, le Kef et Siliana sont les plus touchées. Les nuits se suivent et se ressemblent au Moyen-Orient. 13e nuit consécutive de frappe entre l'Iran et les États-Unis, les alliés régionaux des Américains, Bahreïn, le Koweït et la Jordanie ont une nouvelle fois été attaqués par Téhéran, tandis que Washington poursuit le bombardement des cibles militaires iraniennes. Tensions et menaces plus fortes que jamais entre les deux pays sans aucune perspective de paix, Clara Dubanchet.
Non, Nadia, les événements de ces derniers jours ne permettent pas d'imaginer sous peu une possible accalmie. Les objectifs de l'armée américaine le reflètent dans un communiqué hier soir. Le commandement militaire annonce avoir réalisé des frappes visant à faire rendre des comptes à l'Iran, comprenant par là une réponse aux attaques iraniennes et à celles de ses alliés, outils est inéluctable. Donald Trump avait d'ailleurs évoqué une punition militaire majeure. Elle a été mise à exécution, mais la punition n'est pas terminée pour le président américain. Il a aussi affirmé sur son réseau social que les fonds iraniens gelés aux États-Unis serviraient désormais à rembourser les dégâts sur les navires touchés dans le Golfe.
Et comme on pouvait s'y attendre, Clara, la réponse de l'Iran à ces menaces ne s'est pas faite attendre.
Oui, à ces déclarations, Téhéran répond que l'utilisation des avoirs iraniens saisis par les États-Unis ne fera qu'alimenter le feu de la guerre. Après avoir juré de poursuivre les représailles, tant que les attaques américaines perdureront, le chef de la diplomatie iranienne étend par la suite ses menaces. Tout pays participant, coopérant ou aidant les États-Unis sera tenu responsable par Téhéran, ce sont ses mots. Les gardiens de la révolution appellent d'ailleurs ce matin les civils au Moyen-Orient à se tenir éloignés des forces américaines, présage de nouvelles frappes.
Merci Clara pour ces précisions. Les tensions restent très vives en Cisjordanie occupée. Vendredi, un Israélien a été tué. 4 Palestiniens ont perdu la vie dans le nord du territoire après une attaque contre des randonneurs près d'une colonie israélienne. La veille, 3 Palestiniens avaient déjà été tués lors de 2 attaques distinctes au couteau. Benjamin Netanyahou a promis une riposte avec fermeté tandis que l'armée renforce son déploiement dans la zone. Par ailleurs, le ministre israélien d'extrême droite Itamar Ben-Gvir a de nouveau prié sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est en violation du statu quo en vigueur. Une visite dénoncée par la Jordanie et la Turquie qui ravive les tensions autour de ce lieu saint particulièrement sensible. La situation humanitaire à Gaza cette fois reste au cœur des préoccupations diplomatiques. En déplacement cette semaine en Égypte, la ministre déléguée chargée de l'Europe et des Affaires étrangères, Eleonore Karwa, s'est notamment rendue près du point de passage de Rafah. Elle appelle à une ouverture totale des accès pour l'aide humanitaire et insiste sur la nécessité d'un cessez-le-feu réellement appliqué. On l'écoute.
Nous demandons à ce qu'il y ait une ouverture totale pour l'aide humanitaire, pour les personnes qui en ont besoin, de ces points de passage, et notamment de celui de Rafah. La France fait un appel au respect, à la mise en œuvre effective du cessez-le-feu. Car un cessez-le-feu sur le papier, cela ne sert à rien. Pour nous, il est évidemment important qu'il y ait une réouverture totale des voies d'acheminement de cette aide humanitaire. Alors, c'est un travail qui se décline à de nombreux niveaux et à de nombreuses instances. Vous parlez de la reconnaissance de l'État de Palestine qui a entraîné un mouvement avec plus de 10 autres reconnaissances, notamment la Grande-Bretagne, mais aussi d'autres. Un dialogue permanent et exigeant avec toutes les parties prenantes. Un partenariat très important transparent et très solide avec l'Égypte sur la situation régionale et notamment à Gaza. Et c'est dans ce sens que j'ai eu des entretiens avec un certain nombre de membres du gouvernement égyptien hier. Mais nous continuons et je pense que le message est que je suis ici car il faut continuer à parler de Gaza et moi je vous demande aussi de le faire dans un moment où les cris se multiplient, un moment où on voit que dans la région peut s'embraser du jour au lendemain, où finalement les besoins se démultiplient. Eh bien, les besoins sont bien réels à Gaza et il faut faire un appel à la communauté internationale à ne pas abandonner ses efforts. En tout cas, la France continue à être présente et à appeler les autres puissances à ce que cela continue, car il ne faut surtout pas oublier ces populations qui souffrent.
Vous avez rappelé que des Palestiniens de Gaza avaient été accueillis en France depuis 2025. Ces évacuations ou rapatriements se poursuivent difficilement, vous venez de le dire. Est-ce possible de le quantifier aujourd'hui, depuis notamment ce cessez-le-feu plus que fragile? Est-ce que des Gazaouis sont arrivés en France?
Merci beaucoup François-Xavier. Effectivement, comme je vous disais, il y a eu des rapatriements d'enfants gazaouis malades vers la France avec certains membres de leur famille pour leur permettre d'être soignés en France. C'est un travail qui est extrêmement difficile et complexe, un travail qui part d'ailleurs, qui se fait en coordination avec l'OMS, qui nécessite d'avoir toute une procédure pour permettre à ces enfants d'arriver en France, mais qui se poursuit. Et d'ailleurs, l'un des aspects de ma visite, c'est justement de continuer le travail d'assistance médicale sur le sol égyptien, car il y a beaucoup d'enfants gazaouis avec des besoins médicaux qui sont aujourd'hui en Égypte, mais de continuer effectivement en parallèle ce travail de rapatriement sanitaire qui permet à des enfants d'être soignés en France.
C'était Éléonore Carrois, un entretien accordé à François-Xavier de Calonne depuis le Caire. L'Ukraine a de nouveau visé des entrepôts du géant russe du commerce en ligne Wildberries, cette fois à Saint-Pétersbourg, provoquant un important incendie et faisant 3 blessés selon les autorités russes. Moscou affirme pour sa part avoir abattu 571 drones ukrainiens dans la nuit et annonce l'ouverture d'une enquête pour attentat contre des infrastructures civiles. Les États-Unis appliquent de nouveaux droits de douane de 10 à 12,5% sur les importations en provenance d'une soixantaine d'économies dont l'Union européenne, la Chine et le Japon. Washington justifie ses surtaxes par la lutte contre le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement, une décision dénoncée par plusieurs partenaires commerciaux. La Chine fustige une mesure unilatérale et estime qu'une guerre commerciale ne sert les intérêts d'aucune partie. Retour en France avec ce chiffre, 274 personnes sont mortes par noyade entre le 1er mai et le 15 juillet. Parmi eux figurent 37 enfants et adolescents. Près de 4 noyades mortelles sur 5 sont survenues pendant les périodes de canicule, selon Santé publique France. Le gouvernement poursuit ses économies dans le domaine de la santé. Une partie des remboursements de certains soins sera désormais davantage prise en charge par les complémentaires santé. Une réforme qui relance la question du coût pour les assurés. Mais selon la ministre de la Santé, la répercussion sur le prix d'une mutuelle ou une complémentaire n'est pas automatique. On écoute Stéphanie Rist.
Notre système repose sur le remboursement, une partie de l'assurance maladie obligatoire, la Sécu, et une partie des complémentaires, qui peuvent être des mutuelles. Chacun a sa complémentaire. Il y a moins de 4% des Français qui n'ont pas de complémentaire ou de mutuelle. Ce financement donc repose sur ces deux financeurs. Aujourd'hui, nous avons envoyé des décrets au Conseil des assurances maladie de la Mutuelle sociale agricole pour qu'il regarde ces décrets. Il y a 4 décrets qui vont modifier la part de remboursement de l'assurance maladie et de la complémentaire sur les consultations chez les chirurgiens dentistes, sur les transports sanitaires, sur les médicaments les moins efficaces. Vous savez que c'est la Haute Autorité de Santé, agence indépendante scientifiquement, et qui permet de dire un médicament est très efficace, moyennement efficace ou peu efficace. Et ben pour les médicaments moyennement efficaces ou peu efficaces, nous proposons que l'assurance complémentaire, que les complémentaires payent un peu plus. En faisant aussi ce transfert de financement, cette modification, ça donne une place importante aux complémentaires dans le système, dans le financement de notre système de santé, et donc une responsabilité aussi plus importante. Et je voudrais dire deux choses. J'avais demandé en janvier un travail de réforme structurelle justement sur ce financement entre assurance maladie obligatoire et complémentaire. Ces travaux réalisés par 4 personnalités qualifiées vont m'être rendus à la fin de l'été pour pouvoir, dans le budget de la Sécurité sociale, apporter les premières bases de réforme structurelle. Parce que nous devons structurellement modifier notre financement de la Sécurité sociale. La répercussion sur le prix d'une mutuelle ou d'une complémentaire n'est pas automatique. Nous travaillons avec ces complémentaires, avec des négociations, avec des travaux pour leur éviter et éviter au maximum cette augmentation.
Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie et merci à Alexandre Ward pour la réalisation. Je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau journal. Excellente suite de programme sur Radio Orient.